France Info.
On ne fait jamais vraiment attention au titre donné aux peintures. On devrait pourtant, hein, quand un artiste intitule ses toiles « La mangeuse d'huîtres », « La femme au nez retroussé » ou « Squelette se disputant un hareng sort », on se dit que c'est forcément un artiste intéressant. Bonjour Éric Lejarrias.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes comédien. On vous retrouve donc le 7 juillet au Festival de la Correspondance de Grignan pour une lecture de lettres de James Ensor et Emma Lambotte. Alors James Ensor, c'est un peintre, un avant-gardiste flamand. Oui. Mais qui est cette femme, Emma Lambotte?
Emma Lambotte, c'est la femme d'une bourgeoise qui était l'épouse d'un médecin, d'une femme assez aisée, très 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 férue d'art contemporain, puisqu'à l'époque c'était de l'art contemporain, passionnée, qui écrit sous un pseudonyme Emma L, des critiques d'art, des articles dans des revues un peu confidentielles à l'époque, mais très 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 au courant et tombant amoureuse de la peinture et peut-être, on ne sait pas plus, parce que
elle disait que c'était le plus bel homme de l'époque.
Oui, elle disait que c'était un très bel homme, beau, brun, ténébreux, avec une barbe broussailleuse, très élégant. Et ils ont correspondu pendant 10 ans, et puis au bout de 10 ans, cette correspondance s'est arrêtée un peu bizarrement. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et quelques années après, le mari d'Emma Lambotte a vendu toute sa collection de toiles de James Ensor.
Est-ce
qu'il s'est passé quelque chose?
On ne sait pas.
En tout cas, le ton de la correspondance est un ton. D'abord, c'est très bien écrit. Ouais. C'est un ton assez dans la confidence, dans l'intime,
dans le charme. Ostende. Voilà.
Tout se passe entre Ostende, Bruxelles, Anvers.
Vous connaissiez d'ailleurs, vous, avant qu'on fasse appel
Oui, en fait, il se trouve que j'avais vu des toiles de James Ensor, parce que je dirige aussi à Grignan une autre lecture autour de Michel de Gelderode, avec Dominique Daguier et Lara Suyeux, et il se trouve que j'aime beaucoup et je connaît assez bien Gelderode depuis très longtemps.
D'accord.
Et Gelderode et Ensor étaient très proches.
D'accord.
D'abord parce que Michel de Gelderode a écrit un petit bouquin sur Ensor qui était une espèce de dommage comme ça, de livre de promenade dans la peinture d'Ensor. Et ils ont en commun cette inspiration terriblement flamande de Bruegel, de Bosch, des masques, de cette espèce de foire aux fous.
Juste à propos de festival de correspondance, est-ce que vous pensez que dans 10 ans, ce sera un festival de SMS?
Ça risque,
Éric,
oui.
Parce que c'est vrai que la correspondance aujourd'hui...
Mais je pense qu'il y aura à un moment une lecture de SMS, oui. Oui. Là, c'est peut-être un peu tôt.
Oui.
Je ne sais pas si on a de très passionnantes correspondances par SMS entre un grand artiste et son admiratrice, ou entre deux grands artistes. Mais en tout cas, oui, parce que... Ou de mail, en tout cas, aujourd'hui,
mail,
la correspondance, elle est très clairement là. Je pense que avant d'en arriver là, on a une telle masse, une telle quantité de lettres, d'échanges passionnants, que bon, on va peut-être attendre un peu pour les SMS.
Alors, Éric Lejarrias, vous savez que lire, ça va pas arranger la réputation de feignant des comédiens?
Oui.
Quand on dit lire, parce qu'on se dit, bon, bah, ça va, il se va passer une soirée à nous lire un truc.
Vrai, mais c'est un autre travail, en fait. Voilà, c'est pas parce qu'on n'apprend pas par cœur qu'on travaille pas. je dirais même presque au contraire, parce que c'est un travail moins long, mais c'est un travail très intense. On est obligé de s'imprégner très très vite, parce que le temps est court et que le temps de la lecture sera court aussi. Bon, on est obligé de s'imprégner très très vite de l'œuvre, d'aller chercher à côté, de regarder, si on ne connaît pas le peintre, d'aller regarder les peintures, de regarder un petit peu ce qu'il a écrit sur lui-même, sur les autres, sa correspondance avec d'autres, parce qu'à l'époque il correspondait avec des critiques d'art plastique, avec des critiques littéraires, parce qu'il était passionné de littérature et passionné de musique. D'ailleurs, Emma Lambotte et son mari lui ont offert un harmonium.
Alors, il y a une chose avec vous, vous avez joué dans beaucoup, beaucoup de pièces, Éric Lejarrias.
Oui, c'est dû à mon grand âge.
Bien sûr, je le sais. Et à votre expérience, on dit plutôt maintenant. Voilà,
c'est plus sympa.
Alors, il y avait juste une question que je voulais vous poser. Moi, c'est qu'en 2014, vous étiez à l'affiche d'un spectacle autour des textes de Jean-Yann, intitulé On n'arrête pas la connerie. À votre avis, est-ce que depuis, elle continue à prospérer?
Oh là là, oui. Mon Dieu, elle galope.
Donc, ça veut dire que ce spectacle pourrait très bien reprendre en permanence?
Mais oui, on va le reprendre d'ailleurs. On attend d'avoir un théâtre intéressé. Mais alors, effectivement, Jean-François Vinciguerra, avec qui j'ai joué ce spectacle et qui l'avait mis en scène, et moi, continuons à démarcher des théâtres pour en trouver un où on pourra le rejouer. On le rejouera, je pense. Mais c'est vrai que la connerie... Mais rien n'arrête la connerie. Elle est triomphante, triomphale. Je dirais qu'elle triomphe pas mal en ce moment avec le foot à toutes les sauces et à tous les étages, mais ça, c'est mon côté un peu antisportif.
Primaire. D'accord, de base.
Mais moi, les émissions... Alors, les matchs, bon... Mais les émissions post-match, avec les critiques, ça m'atterre.
Mais vous avez des émissions pré-match aussi maintenant.
Oui, il y a des pré-match, après-match, après-après, des after-d'after. Enfin, voilà,
donc, il ne faut pas vous inviter si on veut demander à un comédien de parler football, ce n'est pas vous en fait.
Si, ça m'arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs. D'accord. Ça m'est arrivé sur cette chaîne et sur d'autres chaînes concurrentes. Mais je parle des à côté du foot, voilà, où je fais des vannes sur le foot. Mais en tout cas, je parle assez mal de foot, c'est vrai.
La mise à jour d'Éric Lejarrias, c'est à suivre toute la journée sur France Info.
France Info.
Avec nous, le comédien Éric Lojarias, vous lirez le 7 juillet prochain au Festival de la Correspondance de Grignan l'échange épistolaire entre le peintre belge flamand James Ensor et Emma Lambotte. La correspondance, d'après vous, ça apprend vraiment à connaître quelqu'un?
Ah oui, c'est pas suffisant parce qu'on peut très bien se masquer dans une correspondance. Mais le fait de se masquer, c'est aussi un trait de personnalité. Dans cette correspondance, Ensor se peint sous un jour assez avantageux. Il écrit bien, il fait très attention, il flatte beaucoup Emma Lambotte. Il faut dire que c'est une de ses commanditaires
bien
aussi.
Sûr,
donc,
ouais.
Elle le pousse beaucoup à faire des expositions. Alors, il fait un peu sa mijaurée. Est-ce que je dois m'exposer à la critique de tous ces gens qui ne comprennent rien à mon art? Il faut dire qu'en effet, il était assez précurseur, assez en avance sur son époque. On l'a classé parmi les impressionnistes, mais il était plus que ça, à mon avis. Il y avait un peu de fauve aussi en lui. Il y a des toiles avec des couleurs très, très poussé, très forte, il aimait les masques, il aimait les gueules, il aimait peindre les bourgeois gros, rouges, suants.
Oui, c'est effrayant, comme.
C'est assez proche des toiles de Bosch et de Bruegel, en fait. Ces foires, cette peinture de ces populaces très, très colorées.
Et aussi. Obsédé par la lumière aussi du Nord.
Obsédé par la lumière du Nord.
On a du mal, Éric Lojarias, à vous classer parce que vous avez fait plein de choses, c'est vrai, entre le théâtre, le cinéma, la télévision ou même hors comédie, hein. Vous avez travaillé pour des émissions.
Oui.
Comment faire pour vous classer?
Mais je ne veux pas être classé.
Ah bon?
Mais surtout pas. Quelle horreur.
Je sais pas pourquoi.
Être posé sur une étagère. Vous savez, quand on classe les choses et quand on les pose sur une étagère, je sais pas si vous avez remarqué, on les oublie. Non, moi je veux être inclassable et je veux comme ça qu'on continue à penser à moi.
Oui, mais justement, est-ce que c'est pas difficile d'être inclassable parce que ça peut faire.
Si.
Ça effraie aussi de temps en temps, non?
Si, oui, ça l'est. Ouais. Ça l'est. Oui, absolument. Ça l'est. D'abord, je ne saurais pas faire qu'une seule chose que je pense que je m'ennuierais profondément. Je ne sais pas si je saurais assez bien faire une seule chose pour ne faire que celle-là. Ouais. Et puis, quand je suis arrivé, que je suis arrivé à Paris, j'ai compris que mon métier allait consister dans les trois quarts du temps à rester assis à côté d'un téléphone et d'attendre qu'il sonne, je me suis dit, je ne pourrais pas faire ça, je vais devenir dingue.
Ouais.
Donc j'ai commencé à écrire, à m'intéresser un peu à la production, puis après je n'ai fait que développer ces différents métiers.
Afin de rester actif. Et quel regard vous avez sur la télévision, justement, aujourd'hui? Vous la trouvez frileuse?
J'ai un regard de vieux con.
Vous la trouvez frileuse?
Ouais, je la trouve très frileuse. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qui se fait d'intéressant se fait sur Internet. Pourtant, c'est les GAFA un peu, hein, Netflix et compagnie, mais je trouve qu'ils ont plus osé. Ils ont compris qu'ils pouvaient aujourd'hui attirer un public de niche que la télévision n'attire plus.
Mais pourquoi il y a eu cette bascule, à votre avis? Quand on va sur YouTube, on voit des émissions des années 90, on voit une vraie liberté, et d'un coup, il y a eu un basculement.
Je crois que les dirigeants de chaînes de télé ont pensé beaucoup plus aux annonceurs à un moment qu'aux téléspectateurs. C'est-à-dire qu'on est passé de la ménagère de moins de 50 ans au caddie de la ménagère et à qui remplit le caddie de la ménagère.
Ouais.
Donc, mais la ménagère, on s'en fout complètement. De toute façon, quand vous discutez avec les gens des chaînes, ils savent ce que le peuple aime.
Ouais.
Ils savent mieux que vous, mieux que le peuple, ce qu'il aime. Donc, ils le gavent. Ils le gavent tellement que ça gave le peuple et qu'il finit par ne plus regarder les chaînes, les fameuses grandes chaînes, les chaînes mainstream. Et c'est développé à la fois en télévision, mais sur le câble et sur le satellite, et sur Internet, toute une série de programmes de niche qui, effectivement, n'intéresseraient pas, dans l'esprit des gens de télévision, la grande masse des téléspectateurs. Et puis, finalement, on s'aperçoit que ces séries sur Netflix, sur Amazon, sur les autres, ou sur certaines, sur Spicy, par exemple, pour le reportage ou le documentaire, sur Black Pills, ceux qui sont pour les séries courtes de fiction, qui sont passionnantes.
Ouais.
Et finalement, vous vous rendez compte que ça intéresse beaucoup de gens et qu'il y a plein de gens. Moi, mon beau-père, qui a bientôt 80 balais, me dit, dis donc, j'ai vu un truc l'autre jour sur Internet, incroyable, la série. Toi qui aimes la science-fiction, tu devrais regarder ça. Parce que tout à coup, c'est là que ça se passe. Et je pense que la liberté qu'on a eue à une époque, avec Carte Zéro, d'inventer le Zérorama, d'inventer le vrai journal, qu'on a eu avec Thierry Ardisson quand on a fait Ardimat.
Ouais.
Regardez mon émission où je tue le chien en couverture de Télé 7 jours avec un joli caniche blanc et un pistolet. Cette folie-là, aujourd'hui, elle fait tellement peur à nos dirigeants qui sont là pour vendre de la pub plus que pour vendre de la culture ou du divertissement même, ce qui est grave. Et ben, cette liberté, elle est prise par les artistes, par les créateurs, sur Internet.
Et ben, en tout cas, on pourra vous voir déjà, en tout cas en liberté, sur scène.
Oui.
Voilà, c'est tout cet été déjà. Alors, il y a au Festival de la Correspondance, donc Masque et Mascarade.
Le 6, c'est James Ensor.
Très bien.
Le 7, c'est la lecture sur Michel de Gelderode.
Très bien.
Avec Lara Sueilleux et Dominique Daguier, que j'ai eu le plaisir de mettre en scène, enfin en tout cas de
D'accord.
mettre en onde, en espace.
Et on vous verra aussi en tournée avec, sur une pièce de Sacha Guitry.
Sacha Guitry, avec Nicolas Briançon, je joue Faisons un rêve.
Qui vous jouez déjà?
Faisons un rêve. Je reprends un rôle qui a été créé par Rému, on ne peut pas l'oublier.
Ben
ça.
Oui, peut-être,
je joue Faisons un rêve et on joue au Festival de Ramatuelle le 9 août et on sera en tournée entre septembre et décembre dans toute la France, en Navarre et dans quelques pays limitrophes.
Voilà, vous croiserez sûrement Éric Lojarias sur la route des vacances. En tout cas, merci beaucoup Éric Lojarias d'avoir passé la journée sur
France Info. Merci Jean-Mathieu, à bientôt.